83 Rimont.
Comme vous avez eu des cours autres que la métaphysique, ceci c'est pour vous rafraîchir l'intellect et vous permettre maintenant d'entrer plus avant dans le problème métaphysique de l'un et du multiple. Faut pas l'oublier, parce que notre finalité, c'est la contemplation du don de sagesse. Tous les matins, tous les soirs, on s'y replonge, et durant toute la journée. Et puis, dans cette finalité du don de sagesse, on essaie de vivre cette contemplation philosophique, ce qui n'est pas commode, ce qui est même difficile. Je ne dis pas que la contemplation mystique est plus facile, hein. Elle demande plus grande purification. Mais elle est plus facile parce qu'elle est limite. Tandis que la contemplation philosophique, qui demande une purification moindre, est plus difficile parce que Dieu nous remet tout entre les mains. Alors il nous a mis cinq talents, parce que vous n'êtes pas bêtes, hein. Donc il nous a mis cinq talents entre les mains, et puis il vous demande de les faire fructifier. Alors maintenant on les fait fructifier. On les fait de toutes manières. C'est pas commode. Alors, on va continuer, si vous voulez, cet effort de regarder dans Aristote le problème de l'un et du multiple, avant de regarder le problème de l'un et du multiple proprement en philosophie. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite, bien que je sais très bien, certains voudraient qu'on aille très très vite, qu'on termine, mais ça n'a pas tellement d'importance. En trois mots, je peux terminer toute la métaphysique. Alors c'est vite fait. Tandis que je crois qu'il vaut mieux essayer de creuser certains de ces problèmes. Le problème de l'individu est sûrement un problème très difficile. À la fois très simple, puisque c'est la propriété. Alors ça saisit tout de suite. C'est séduisant. L'un nous séduit toujours. Il faut sentir la séduction de l'un. C'est au cœur du beau, hein, faut pas l'oublier. Il n'y a pas de beauté sans unité. On l'a bien montré hier, hein, en faisant l'analyse d'un chef-d'œuvre. On montre tout le temps l'unité, si vous avez remarqué, j'espère, hein. À travers la multiplicité, il y avait toujours l'unité qui était là. Une unité qualitative. Une unité qui se manifestait dans la lumière. Mais c'était l'unité. S'il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas d'œuvre. Ça aurait été très beau, hein, de reprendre au cours de métaphysique. J'ai hésité, mais j'ai écouté. Parce que plus on parle, plus on doit savoir écouter. Alors j'ai écouté. Mais de temps en temps, j'avais envie de dire, hein, regardez bien le problème de l'individu. Hein, regardez-le bien, parce que c'est magnifique comme illustration du problème de l'individu. C'est extraordinaire. Vous avez vu ? Le moment où il aimait le plus, c'était quand on voyait les vierges dans le ciel. Hein. C'est là où l'unité de l'un du multiple était parfaite. Faire regarder les têtes de ces vierges à droite et à gauche, c'était merveilleux l'unité. De voir, parce que c'était là où la beauté était la plus grande. Hein. La beauté la plus grande du côté des vierges. Les confesseurs, hein, c'était moins... C'était plus rugueux. Tandis que les vierges, c'était magnifique, c'est extraordinaire. Depuis la première Ève jusqu'à Marie, en passant par toutes les autres, et on retrouvait la beauté. Alors l'un, c'est bien la beauté. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et en même temps, on dépasse la beauté. Je ne termine pas la métaphysique par le traité du beau. Non. La probabilité, c'est l'un, c'est pas le beau. Donc il faut saisir la différence entre le beau et l'un. Mais il faut comprendre que l'un et le beau se tiennent très très fort, très très fort, pour ne pas séparer le beau de l'un. Et vous pouvez séparer l'un du beau. Ça, c'est justement le propre de la métaphysique. Alors à ce moment-là, vous allez me dire, c'est plus beau du tout. C'est très vrai, c'est plus beau du tout, mais c'est un. Et c'est encore plus beau. C'est vrai que traiter de l'individu, c'est encore plus beau que de le beau. À travers du temps, du temps, parce que notre intelligence est d'apprécier cette multi. Notre intelligence met beaucoup pour nous. Le problème de l'un, c'est une arête très très profonde, très ultime, qu'il faut saisir. Donc, je vous ai rappelé comment, de fait, Aristote, dans le livre Delta, nous rapporte la diversité de l'individu multiple. Je ne veux pas continuer le livre Delta, c'est très très beau, c'est un petit peu assommant, parce que c'est tout simplement une diversité, c'est un dictionnaire, faut pas y rester trop longtemps dans un dictionnaire. Mais c'est quand même intéressant de regarder un dictionnaire. C'est dans le livre Iota qu'Aristote considère l'un dans son rapport avec l'être. Alors, le livre Iota est un livre très difficile à saisir. Vous avez une excellente traduction, alors je vais vous laisser dedans, n'est-ce pas? Lisez, peut-être pas pendant la période d'examen, parce que on est plutôt dans le multiple. Alors, c'est plutôt en dehors des examens qu'il faut découvrir le problème de l'un. Il faut découvrir le problème de l'un. Et là, il faut relire le livre Iota. Il y a deux livres qu'il faut voir quand on veut le problème de l'un. Le livre Iota d'Aristote et l'un dans la théologie de saint Thomas. Dieu est un. Pas comme un. C'est très très simple, on est tous monothéistes. Hein? Non, c'est pas très bien ce que ça veut dire. Parce que quand vous parlez de l'un de Dieu, ça ne veut plus rien du tout. Vous dites que c'est impossible que ce soit autrement. La multiplicité n'entre pas en Dieu. La multiplicité n'entre pas en Dieu. La multiplicité, c'est le domaine de la diaspora, c'est le domaine de la créature, c'est le domaine de tout ce qui n'est pas Dieu. Et au fond, c'est au fond des néoplatoniciens et de Platon, ça. C'est que la multiplicité n'entre pas en Dieu. Alors vous avez cet aspect négatif, très très fort, du dépassement de la multiplicité pour essayer de regarder le mystère de la transcendance de l'un. Aristote, dans le livre Iota, se met à un plan scientifique. Tandis que saint Thomas, dans la Somme, parlant de l'un, ça va être un plan parallèle. Vous savez, c'est même très beau de faire le parallèle entre les deux. C'est pas commun, mais c'est intéressant de faire le parallèle entre les deux. Parce que d'un côté, c'est contemplatif, et de l'autre côté, c'est analytique. Alors c'est intéressant de regarder toujours la double manière. Hein, ceux qui apprennent la conduite de l'auto savent que les questions de changement de vitesse, c'est quand même intéressant, disons, important. Alors il faut bien distinguer. Alors je ne dis pas que je n'ai pas de numéro, là, parce qu'il n'y a pas de numéro. Mais la contemplation, c'est pas analytique. Elle s'exprime toujours par un mode d'analyse, mais elle n'est pas analytique. C'est pour ça qu'elle nous déconcerte. Tandis que l'Iviota est analytique. Et c'est le livre de la propriété. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une conclusion scientifique, au sens fort, il faut regarder ce que c'est que l'Iviota. Et c'est très difficile. Ça prouve que vous voyez qu'on n'est pas très scientifique. On a des peines à être scientifique. On a beaucoup de peines, hein. Le grillage scientifique est très difficile. Hein. Alors faut pas oublier. Hein. Faut pas demander à l'économie d'être scientifique. Hein. Faut laisser à l'économie d'être optimiste. Mais il ne faut pas demander à l'économie d'être scientifique, non. C'est l'ordre des possibles. Ce qui peut arriver. Vous l'avez vu, c'était très intéressant à ce point de vue-là. Intéressant de mettre les deux extrêmes. Une magnifique œuvre d'art, puis après entendre un homme de l'économie. C'est très intéressant, c'est sûr ça. Point de vue des registres, c'était pas la même vitesse. Et tous les deux, c'était beau. Les possibles peuvent être beaux. C'est principalement dans le livre Iota qu'Aristote considère l'un dans son rapport avec l'être. L'un, on l'a vu, se prend en plusieurs sens. Le polakos, qui peur sera menée à quatre sens principaux. Il y a d'abord le continu. Subitesse. Oui, nous retrouvons toujours cette même idée. Hein. C'est très intéressant de voir ça. Je crois que c'est très important. Et bien, toujours, hein, n'oubliez jamais, quand vous êtes dans Aristote, et surtout quand vous êtes dans le problème de l'un et du multiple, de regarder l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Alors ici, ça se sent d'une manière étonnante. Hein. C'est à propos de l'un et du multiple que vous saisissez le mieux ces distinctions, que vous saisissez dans toute sa force. C'est pour ça que si on avait le temps, on n'aura pas le temps, mais je vous le dis tout de suite. Alors mettez ça en nota bene. Selon le temps, c'est à l'égard du problème de l'individu de considérer le mieux l'extension de l'énergie. L'analogie se saisit dans sa fine pointe pour la distinction de l'être en arc et de l'être en puissance. Et l'analogie se saisit dans toute son extension pour le domaine du multiple. Puisque je crois que la même chose, c'est de toujours, à travers le multiple, on a un esprit analogique, on a une intelligence bien faite, car au-delà de la diversité, au-delà de la multiplicité, on saisit le petit commun, le quelque chose de commun, le quelque chose d'un. Et alors c'est évident que c'est là, c'est dans le problème de l'analogie multiple, qu'on saisit le mieux toutes les répercussions de l'énergie. Mais ça, il faudra faire ça au terme. Et c'est très intéressant d'avoir l'esprit éveillé là-dessus. Alors vous comprenez, selon l'ordre génétique, hein, là est en premier lieu subitesse. Donc le continu. C'est un nom très particulier, c'est l'inconfus. C'est l'inconfu. Enfin, c'est le tout. C'est le tout. Il ne faut pas l'oublier. Le tout, ce n'est pas une synthèse, c'est un inconfu. C'est un inconfu. C'est le tout. Parce qu'il y a une certaine unité dans le tout. Mais il y a des possibilités d'illusion. Et des possibilités d'illusion demeurent. Vous voyez, alors on se rassure dans le tout. C'est toujours rassurant le tout. Le tout confus, c'est rassurant. Parce que c'est une unité, mais c'est une unité d'ordre génétique. Point de départ, le subitesse. Il y a le continu, soit général, soit avant tout le continu naturel, qui ne résulte ni d'un contact, ni d'un lien extérieur. Alors ce serait très intéressant de voir ça. Le continu, soit général, hein, c'est celui que l'intelligence construit. Et puis le continu physique. Le continu physique, alors ça c'est l'univers. C'est l'univers, le tout. L'univers c'est le cosmos. Et puis il y a tout pour le construire. Hein. D'une certaine manière, l'universel, c'est un tout. Et c'est un tout en général aussi. Et là vous avez les deux, le tout physique et l'universel. C'est curieux ça. Hein. Et l'universel générique, c'est l'universel fondamental. Alors vous aimez d'unir génériquement les choses. On unit un cosmos comme ça qui unit, qui fait la... C'est très important de saisir ça. L'ordre génétique. C'est vrai que l'ordre génétique commence par l'universel générique. Et puis, le point de vue fondamental sur lesquels c'est notre cosmos. Il y a le tout, ce qui est une forme. Une eidos, avant tout le tout naturel qui porte en lui-même la cause de sa propre continuité. Alors entre deux, vous avez autre chose, le tout en homme, on dit Aristote, le tout en homme qui a une forme morphée eidos. Alors c'est déjà un petit différent, mais c'est aussi, se prend du côté de la matière, de la quantité, plus exactement, c'est pas la matière, hein, c'est la quantité. La matière comme telle n'est pas un tout. C'est la quantité qui est un tout. La quantité qui est propre du tout. Alors il y a le tout, donc la forme. Il y a ensuite tout ce dont le logos est un. Tout toutes les choses dont la pensée est une, c'est-à-dire indivisible, adiagétos. Or, la pensée indivisible est celle qui considère ce qui est indivisible numériquement ou spécifiquement. Là, vous avez les définitions. Mais l'élément fondamental de la définition, c'est une recette générique. Mais c'est l'élément fondamental, tandis que la définition, elle, est un tout invisible. C'est donc quelque chose de beaucoup plus. C'est au niveau du logos. Mais le logos n'est pas vraiment logos que dans la définition. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ce dont le logos est un, toutes les choses dont la pensée est une, c'est-à-dire indivisible. Or, la pensée indivisible est celle qui considère ce qui est indivisible numériquement, spécifiquement, est indivisible numériquement, arithmétiquement, l'individu. Alors, vous avez ici l'individu. Et l'individu n'apparaît pas tout de suite. Vous avez l'individu, un. Numériquement, et indivisible spécifiquement, ce qui est indivisible par rapport à la connaissance et à la science, l'universel, de sorte que, alors l'universel fondamental, je vais le mettre ici, l'universel spécifique. Oui, il y a les deux. Et c'est vrai qu'on peut le mettre ici aussi parce que ce sous-écosse fondamental va être quelque chose de tout à fait fondamental par rapport à un premier, génétiquement. Les deux vont toujours en parallèle, hein, la réalité et notre intelligence. Alors, donc, l'universel, de sorte, la science, hein, plus exactement, de sorte que doit être un, au sens premier, ce qui est la cause de l'unité des substances. Il y a donc quatre significations de l'un. Le continu, le tout, l'individu, l'universel. Vous voyez que l'universel est... au point de départ et au terme. Et c'est vrai. Parce que je peux très bien prendre l'universel au niveau de la science et l'universel générique. Et alors l'universel au niveau de la science, c'est une bonne définition. Je l'ai là donc des deux côtés. Aristote résume ce qui constitue l'unité. Donc ce qui constitue l'unité pour tous ces êtres, c'est l'indivisibilité du mouvement pour les uns. Et pour les autres, l'indivisibilité de la pensée ou du logos. Aristote fait remarquer qu'il ne faut pas confondre quelles sortes de choses sont dites une et ce qu'est l'un et son logos. C'est très important de bien voir les choses. Une. Et puis, ce qu'est l'un, ce par quoi ces réalités sont une. Le quoi de le quoi. Le quoi, c'est la réalité indivisible. Ça c'est le poids, ce sont les réalités indivisibles. Et ce par quoi ils sont indivisibles. Mais donc il fait la distinction entre les deux. Et c'est intéressant pour essayer d'arriver, n'oublions pas qu'il faut essayer de chercher qu'est-ce que c'est que l'un. Donc il commence par voir la diversité des uns, les diverses modalités de l'un. Il l'a déjà vu dans le livre Delta, il le reprend dans le livre Delta comme une étude philosophique au point de vue de l'être, pour essayer de saisir qu'est-ce que c'est que le logos de l'un. Et alors il nous dit ceci, l'être de l'un, c'est l'indivisible. L'être de l'un, c'est l'indivisible. Je crois qu'il faut bien noter cette formule. To emi elnai, to adiagreto, esti elnai. Donc, l'être à l'un, c'est l'être à l'indivisible. C'est l'indivisible qui fait ce qui caractérise l'un. L'un, la raison de l'un, c'est l'indivisible. Aussi, l'un est-il surtout la mesure première de chaque genre. Et là, vous saisissez ce qu'est l'un. Après la diversité, on saisit qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces uns. Qu'est-ce que c'est qui fait l'un dans tous ces uns, hein? C'est tout à fait contradictoire, mais analogiquement, ça peut se comprendre. Alors, il peut y avoir divers uns, c'est invraisemblable. Vous voyez, là, je brise complètement le néoplatonisme. Hein? Il peut y avoir divers, ça c'est comme méthode, c'est totalement différent. Il peut y avoir divers uns, et ces divers uns ont quelque chose de commun, un ticodon. C'est ce ticodon que je cherche, et je vois que c'est indivisible. C'est l'indivisible qui se trouve réalisé selon des modalités très très différentes. Et cet indivisible, c'est l'être de l'un. Très curieux. la propriété, l'être de la propriété. Qu'est-ce qui fait que l'un est un? C'est qu'il est indivisible. Donc là encore, vous voyez, vous le définissez négativement. Parce que l'indivisible, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas être divisé. Tout ce qui n'est pas divisé est un, par le fait même qu'il n'est pas divisé. Alors qu'il n'est pas divisé par nature, qu'il n'est pas divisé encore, et c'est pour ça qu'Aristote souligne, hein, l'un est-il surtout, par le fait même qu'il est indivisible, l'un est-il surtout la mesure première de chaque genre, et tout spécialement la mesure première de la quantité. Alors c'est là où c'est très important de saisir le passage, si je veux savoir qu'est-ce que c'est que l'un. Je vois donc que c'est l'indivisible, et l'indivisible on passe à la mesure. Alors quelle différence y a-t-il entre les deux? Pourtant, dans la différence entre les deux, je passe directement de l'un à l'autre. L'indivisible c'est au niveau de l'être. Alors, je peux définir la part indivisible par cela et relative à autre chose. Alors, je peux définir par l'indivisible. Je ne peux pas définir par l'indivisible. Mais s'impose lui-même. Jamais défini l'être par l'indivisible. L'être s'impose lui-même, tandis que l'un, il peut être défini par l'indivisible. Pourquoi? Parce qu'il est relatif à l'être. Alors je fais l'être de l'un. Et l'être de l'un, c'est justement d'être indivisible. Comme nous, si vous essayez de réfléchir là-dessus, la différence entre l'être qui est directement saisi par l'intelligence et l'indivisible qui est saisi comme l'indivisible. Et parce qu'il est indivisible, il peut jouer le rôle de mesure. Alors ça, c'est une chose encore très curieuse. Qu'est-ce que c'est que la mesure? La mesure, c'est un principe de connaissance. Donc, c'est quelque chose de premier dans l'ordre de la connaissance. C'est une espèce de causalité dans l'ordre de la connaissance. Vous voyez, quand Descartes ramène la causalité à la forme intentionnelle. Nous l'avons vu au cours de théologie naturelle. Et je vous ai dit que c'était très important de comprendre ça. C'est un moment capital de la pensée de voir ça. Comment Descartes applique le principe de causalité au niveau de la forme intentionnelle. À propos de l'idée d'infini. Et qu'il cherche la cause de l'idée d'infini. Et qu'à partir de l'idée d'infini, il remonte jusqu'à Dieu. Alors il le fait par le point de vue de la causalité. En réalité, quand il fait ça, ce n'est plus la causalité, c'est la mesure. Alors ça, c'est intéressant pour essayer de comprendre Kant. Parce qu'on fait ramener la causalité à l'intentionnalité, c'est juste au niveau de la mesure. Parce que vous pouvez chercher le principe d'intentionnalité, le principe dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais ce n'est pas une causalité, ce n'est plus une causalité, c'est une mesure. C'est ce qu'il y a de premier. L'idée d'infini présuppose une mesure d'infini. Mais je reste dans l'ordre de l'intentionnalité, donc ça ne prouve pas l'existence de Dieu. Et c'est important ça, vous voyez, c'est l'un qui nous aide à comprendre ça. C'est l'un qui nous fait saisir immédiatement ce point de vue-là. Et donc l'un nous fait saisir immédiatement l'erreur de Descartes. Et Aristote souligne, hein, aussi l'un est-il surtout la mesure première de chaque genre, et tout spécialement la mesure première de la quantité, puisque de la quantité, la mesure a été étendue aux autres catégories, aux divers genres d'êtres. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la mesure est liée à la quantité. Voilà trois notions d'Aristote unies. Très rapidement, après avoir vu la diversité de là, il est indivisible, mesure quantité. Ça, je crois que c'est très très important de bien saisir le lien qui existe. Il l'affirme successivement. Pour nous, c'est une évidence. Alors j'espère que pour vous aussi. Non, si on est aristotélicien, c'est dans la mesure. L'intelligence aristotélicienne, vous voyez. Parce que c'est savoir l'indivisible, la mesure à quantité. Et de la quantité, toutes les autres catégories, ça gagne tout. C'est extraordinaire de voir comment la quantité qui est première dans l'ordre, justement, dans l'ordre de la mesure se réalise parfaitement dans la quantité. Et comment, à partir de là, il y a une transposition métaphorique à l'égard de toutes les autres, Je relis pour que vous voyez bien, aussi loin est-il surtout la mesure première de chaque genre, et tout spécialement la mesure première de la quantité. Puisque de la quantité, la mesure a été étendue aux autres catégories, aux divers genres d'êtres. La mesure, en effet, c'est ce par quoi la quantité est connue. Ce qui est capable de déterminer le divisible. C'est ça la quantité, la mesure. La mesure, en tant qu'elle mesure, elle détermine. Donc elle rend acte ce qui est en puissance. La quantité est divisible. Donc elle est en puissance. Elle est divisible au point de vue de la connaissance. Le divisible comme tel n'est pas connaissable, puisqu'il est en puissance. Ce qui est en puissance n'est jamais connaissable immédiatement. Il est connaissable par l'acte. Quel est l'acte du divisible? C'est la mesure. C'est très très important pour tout le domaine mathématique, de la connaissance mathématique. Parce que c'est là où on saisit, je crois, ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à la connaissance mathématique. Et c'est important parce qu'on voit qu'on est là dans le domaine propre de l'indivisible. Oui, au fond, les mathématiques correspondent à ce qu'il y a de plus comme naturel à notre connaissance humaine. C'est pour ça que c'est si difficile de dépasser les mathématiques. Parce que c'est ce qui est le plus comme naturel, c'est le mode le plus normal de notre connaissance humaine. Notre connaissance humaine, normalement, est dans l'ordre mathématique. Parce que vous n'aimez pas les mathématiques, dites-vous qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Alors, on a même plus côté de l'art. Parce qu'elle vous pouvez trouver. Mais c'est les deux connaissances les plus comme naturelles en nous. C'est les mathématiques et l'art. C'est très curieux. C'est les deux aspects. Alors, la comme naturalité par le point de vue sensible et la comme naturalité par le point de vue du divisible. Mais c'est très intéressant à saisir, ça. La mesure, en effet, c'est ce par quoi la quantité est connue. Or, c'est par l'un ou par le nombre que la quantité, comme telle, est connue. Et en définitive, tout est connu. Donc, toute quantité comme quantité est connue par l'un. Indivisible en tout. L'un. Indivisible en tout. Tante. Toutes nos autres mesures imitent un principe du nombre. Ça, c'est très très intéressant à bien saisir. Toutes les autres mesures, je vous l'ai dit, toutes se transposent à partir de la quantité. Et alors, du côté de la quantité, on a le principe du nombre. Donc là, principe. Le principe, il n'est pas compte du nombre. Le principe d'intelligibilité. Donc vous allez voir, mesure, principe d'intelligibilité. La mesure est toujours un principe d'intelligibilité. Quelque chose de très radical comme principe d'intelligibilité. C'est par où l'intelligence est capable de mesurer, donc de ramener l'unité. Quand l'intelligence mesure, elle ramène l'unité. Quand vous mesurez n'importe quoi, une quantité de lait, voir combien de quantité d'eau, vous mesurez une quantité n'importe quoi, vous ramenez l'unité. Et à partir de là, vous donnez, vous mesurez le principe d'intelligibilité. Alors voyez la confusion que fait Descartes. Transpose le point de vue de quantité à l'intentionnalité, dans laquelle en réalité il n'y a qu'un seul principe là. Et je crois que c'est ça qui donne l'intelligence de Descartes, et qui donne l'intelligence de qui on veut le vivre. Parce que c'est ça qu'on doit chercher à comprendre. Oui, comment le domaine mathématique non limité va produire l'ontologie. Je ne dis pas que c'est les mathématiques qui sont coupables de ça, mais c'est les philosophes qui n'ont pas fait la distinction suffisante entre le domaine du principe et le domaine de la cause. Le principe s'étend à l'intentionnalité et à l'être.
La courbe s'arrête au domaine de l'être.
Tandis que le principe de la courbe s'est enlevé.
Or, du côté génétique, ne l'oublions pas, du côté génétique, la quantité est premièrement tenue par l'un. Donc, du côté génétique, le principe est antérieur à la cause.
Il faut bien savoir que lorsque nous sommes fatigués, philosophiquement parlant, et métaphysiquement parlant, ce qui conditionne détermine. Et donc le principe remplace la cause. Toutes nos autres mesures imitent cet un principe du nombre. On peut donc conclure que l'un est mesure de toutes choses. Pantone, métro, TN. Sans ce dont nous y a, en divisant, soit selon la quantité, soit selon la forme. L'un est indivisible, puisque le premier de chaque genre d'être est indivisible. L'un est indivisible, soit absolument. Nos autres mesures imitent cet un principe du nombre. On peut donc conclure que l'un est mesure de toutes choses. Pantone, métro, TN. Puisque nous connaissons ce dont nous y a, en divisant, soit selon la quantité, soit selon la forme. L'un est indivisible, puisque le premier de chaque genre d'être est indivisible. L'un est indivisible, soit absolument, soit en tant qu'un. Donc, vous voyez, là, il y a un premier effort très intéressant, qui est quelque chose de typiquement aristotélicien face à Platon. C'est quand même très intéressant de voir où l'erreur de Platon où gît l'erreur de Platon. L'erreur de Platon, c'est la confusion entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Au niveau proprement estimé, au point de vue de notre connaissance. C'est la confusion des deux. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que le platonisme est à l'origine de toute espèce d'ontologisme. Parce que c'est toujours la même erreur qu'on trouve. Et c'est à propos de l'un qu'on le saisit mieux. C'est pas à partir de l'être. C'est à partir de l'un qu'on saisit mieux. Et c'est pour ça que Platon met l'un avant l'être. C'est logique de mettre l'un avant l'être une fois que vous avez fait la confusion entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Il faut essayer de saisir ça. Alors à partir de là, vous comprenez la confusion entre le point de vue de la causalité et le principe. Or, du côté principe, il n'y a pas de causalité finale, mais que mesure. Et c'est la mesure qui absorbe la finalité. Arriver à saisir. Seul dans la causalité, il y a une causalité finale. Ne dis pas qu'il y a un principe final. Ça ne va pas dire un principe final. C'est impossible. Le principe est mesure. Et les mesures, tandis que la cause peut être une cause finale. Et la cause finale se distingue des autres causes. Alors que vous n'avez pas à l'intérieur du principe les quatre principes. Principe matériel, principe formel, non, non. C'est à l'égard de l'être. C'est à l'égard du devenir que vous avez ça. C'est pas l'égard de ce premier. Donc le premier comme tel, on comprend très bien comment on va refuser toute l'analyse des causalités pour maintenir le primat de l'un. Au niveau de l'intentionnalité, au niveau de l'intelligibilité. En répondant aux apories, Aristote précise encore que c'est l'un. Ce qu'est l'un. D'une part, l'un, pas plus que l'être, ne peut être illusia. Jamais la nature de l'un, mais l'un en soi. Alors aussi, ça c'est une chose très très forte et qui est très importante à bien saisir, ce que je disais tout à l'heure. Jamais la nature de l'un, mais l'un en soi. Il n'y a pas d'un en soi. Hein, ça, c'est par rapport à Platon. Il faut toujours penser qu'Aristote pense face à Platon. là on doit tester justement ce qu'il y a de plus magnifique. Eh bien non, il ne peut pas y avoir d'un en soi. Pourquoi? Parce que l'un est toujours saisi relativement. D'autre part, l'un, pas plus que l'être, ne peut être un genre. Mais l'un se dit différemment de toutes les catégories de l'être. Il faut nécessairement, pour chacune de ces catégories, chercher ce qu'est l'un. Ce sera donc le divin qui constituera lui-même. C'est sûr, l'un s'appuie sur l'usia. Alors ça c'est très important, parce que c'est la conclusion métaphysique. Ce sera donc une usia qui constituera l'un lui-même. Si je dis que c'est l'usia qui constitue l'un, ça prouve que l'un est propriété de l'être. Puisque l'un est relatif à l'usia, ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. On n'affirme rien de plus lorsqu'on dit un homme que lorsqu'on dit homme. Tout comme l'être ne signifie rien en dehors de l'usia, de la quantité et de la qualité. Le fait d'être un est l'être de chacun. Donc il n'y a pas d'intention. Et la nature même de l'un, c'est l'usia. C'est très bref comme conclusion, c'est extraordinaire comme arriver à résorber l'un, oui, parce que c'est vraiment ça, résorber l'un par rapport à l'être. Et en même temps comprendre que l'un dit quelque chose que l'être ne dit pas, au niveau du logos. Au niveau du logos, l'un dit quelque chose que l'être ne dit pas, c'est pour ça qu'on ajoute l'un. L'un s'ajoute à l'être, il s'ajoute comme l'acolyte. Comme quelque chose qui vient justement après. Après avoir exposé ce que l'un, Aristote montre comment l'opposition du multiple de l'un se dit de diverses façons. Donc son premier effort face à Platon, c'est de montrer que l'un est relatif. Et cependant que l'un a quelque chose que l'on ne dit pas. Et ce quelque chose que l'on ne dit pas, c'est l'individu. Ça t'a donné un extraordinaire à tout cela. Il dira exactement la même chose. Quelle différence a-t-il entre la rationius et la rationalis? Ça c'est le langage de saint Thomas, c'est le logos. Quel est le logos de l'un? C'est l'indivisibilité. L'un exprime ce qui est indivisible par rapport à ce qui est. Alors, l'indivisible, c'est extrêmement curieux. L'indivisible qui est négatif font la mesure. Et la mesure est extrêmement importante. Donc retenez ça en essayant d'y réfléchir. De voir comment l'indivisible n'est pas premier dans l'ordre de l'être, mais premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Parce que c'est ça qui est intéressant à voir. Et premier dans l'ordre de l'intelligibilité, comprenons bien, dans l'ordre, de l'intelligibilité du divisible. Pas n'importe quelle intelligibilité, parce qu'autrement, on définit l'un, l'un dans l'être. Je reprends que nous prenons bien. Quand ça commence par l'être et le divin, ça commence nous dit que dans l'ordre de l'intelligibilité, l'être est premier. Dans l'ordre de la causalité, le divin est premier. Et je vous ai dit, ça c'est une chose très très importante, que saint Thomas reprend Aristote, et que saint Thomas précise par rapport à Aristote. Mais nous, nous sommes du côté des mains, nous avons essayé de dire quel est l'autre maître et l'un. Platon rejetait l'un du côté du bien, tandis que saint Thomas récupère du côté de l'être. Très très différent. On peut se poser la question, quel lien y a-t-il entre l'un et le bien? Mais en fond, c'est pas la question d'Aristote, en métaphysique. Et en éthique, Aristote ne se pose pas tellement la question de savoir quel est le rapport entre l'un et le bien. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se dire le rapport entre l'être et l'un. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, du côté de l'intelligibilité, l'un apparaît comme premier, les principes. Alors, il est avant l'être. Non. Il est nourri du divisible. Et donc, sa primauté, c'est du côté du divisible. La primauté de l'un par rapport à l'être, c'est du côté du divisible. La primauté, il est principe. Donc s'il est principe, il a quelque chose de premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc dans l'ordre du divisible, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Dans l'ordre de l'intelligibilité fondamentale de l'être, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, c'est l'ousia. C'est pas moi. Et l'ousia constitue là, dans l'ordre de l'intelligibilité. Il faut s'amuser, tu vois. S'amuser, c'est intéressant, c'est intéressant avoir le rapport entre l'être, il est premier dans l'intelligibilité par rapport au bien. Ah oui, mais alors dans l'intelligibilité, je dois encore faire une distinction, et c'est ce que fait Saint-Homme ici, dans l'intelligibilité, dans l'ordre de l'intelligibilité, dans l'ordre de l'intentionnalité, dans l'ordre de l'intelligibilité, je fais encore une distinction. Je dis que l'être est premier, fondamentalement, sans chemin. L'être est ousia. Substantiellement, l'être premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais dans l'ordre de l'intelligibilité, du divisible. Le divisible, ce n'est pas n'importe quelle intelligibilité. Le divisible, c'est une sorte d'intelligibilité. C'est une modalité d'intelligibilité. C'est l'intelligibilité première dans l'ordre génétique. Le tout confus. Je l'aimais beaucoup, le tout confus. Non, je l'aimais. Parce qu'il est premier dans l'ordre d'intelligibilité, dans l'ordre génétique. Dans l'ordre génétique, vous comprenez? Le divisible. C'est vrai, c'est premier dans l'ordre divisible. Alors, ce divisible, là apparaît. Premier dans l'ordre du divisible. Il est l'indivisible. Il est donc mesure du divisible. Il est ce par quoi je connais le divisible. Il est ce par quoi j'ordonne le divisible. Il est ce par quoi je domine le divisible. Il est ce qui donne, donc, principe d'ordre dans le divisible. Il y a donc, vous voyez, toujours une possibilité de rivalité entre l'un et l'être, et la possibilité de rivalité entre l'un et l'être, puisque tous les deux c'est dans l'ordre de l'intelligibilité, cette rivalité possible entre l'un et l'être, c'est la rivalité entre le premier selon l'ordre génétique et le premier selon l'ordre de perfection. C'est curieux ça. Et c'est intéressant parce que ça nous fait comprendre ce monde génétique, c'est mon conditionnement humain, c'est mon conditionnement humain. C'est dans l'ordre de l'extension, c'est mon conditionnement dans l'ordre de la perfection. Ah, c'est le monde qui a quelque chose, jusqu'au bout. Mais ce qui montre très bien, c'est pas nous dire tout de suite. La philosophie du bon sens, oui, ça va être là. C'est le tout. Oui, c'est ça. Ça nous fait autrement, puisque c'est l'ordre génétique. Ça, c'est la philosophie du bon sens, c'est l'ordre génétique. Tandis que la métaphysique, c'est l'ordre des perfections. C'est l'être, je veux dire, c'est l'être, c'est l'ousia. C'est l'ousia. Alors, je comprends l'affrontement d'Aristote entre l'un et l'ousia. C'est très très important, puisque Platon avait dit que l'un est au-delà de l'ousia. Aristote n'est pas du tout, l'un n'est pas au-delà de l'ousia, puisque ce qui constitue l'un par rapport à l'être, c'est l'ousia. Essayez de comprendre un peu, c'est très complexe, hein. Je sais très bien, c'est une des choses les plus difficiles à saisir. Hein. C'est le triangle, si vous voulez, l'être, l'un et le bien. C'est très difficile à saisir. Et là, la descente du bien sur l'un, ça c'est encore plus quelque chose d'extraordinaire, la descente de l'un. Parce que le bien, quand on était première, l'un mesure. Alors la rivalité entre la cause et l'effet première, la cause et l'effet finale, la mesure. C'est de rivalité extraordinaire entre les deux. Parce que la pauvreté, la mesure est très proche de la pauvreté exemplaire. Très proche de la causalité exemplaire. Et la causalité exemplaire est toujours un peu rival de la causalité finale. Alors, il y a une espèce de rivalité très curieuse, rivalité par rapport à l'être. Et donc, il faut saisir la complexité. Je tenterai plus, hein, parce que je lisais le livre Yatoff, le lire avec beaucoup d'attention. On devient là quelque chose de très important pour la pensée d'Aristote, c'est d'essayer, au terme, hein, face à Platon, d'essayer de comprendre comment l'un, relatif à l'être, est cependant lié essentiellement à l'être. Il n'est pas accidentel à l'être. L'être est essentiellement un. Il est essentiellement un. Et donc, il est propriété de l'être. Alors, il faut d'abord distinguer l'un de l'être. Il faut ensuite comprendre comment l'être est essentiellement un. Et vous comprenez pourquoi. L'être est essentiellement intelligible. Or, l'un est apparenté à l'intelligible. Il est même pas revenu dans l'ordre de l'intelligible, dans l'ordre du divisible. Et donc je comprends ce lien essentiel qui existe entre l'être et l'un, par le point de vue de l'intelligibilité. La plaque, vous voyez, ce qui fait le lien entre les deux, c'est le domaine de l'intelligibilité. Oui.
Est-ce que l'appréhension de l'un dans l'être se fait par l'induction?
Non. Elle est immédiate. Pas l'induction. Il n'y a pas d'induction de l'un. C'est un problème qui est très intéressant à voir, parce que c'est la connaissance de l'un comment, alors la connaissance de l'un au niveau de la perfection, vous voyez, elle se fait par l'être, c'est sûr. Elle se fait par l'illusion.
Alors, est-ce que la division, justement, est-ce que c'est la division qui permet d'appréhender l'un, ou si l'un s'impose comme,
Alors je dirais bien deux choses. Vous avez une intuition de l'un au niveau artistique. Au niveau artistique, c'est bien évident que tous ceux qui ont un sens de l'art ont l'intuition de l'unité de la forme. Ce qui me frappe le plus dans une œuvre, c'est l'unité de la forme, mais au contraire, la non-unité de la forme. Et toutes les critiques vont porter là-dessus. C'est très facile. C'est toutes les critiques vont là-dessus. C'est de montrer la non-unité, ou au contraire, l'explication de montrer l'unité. Donc vous ramenez la multiplicité, vous montrez une œuvre d'art est d'autant plus grande que la diversité est plus grande et l'unité plus profonde. Bon, alors ça, c'est l'intuition là. C'est-à-dire qu'il y a une saisie immédiate de la qualité. Et la qualité implique l'unité. C'est l'unité de la forme. Second type d'unité, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. C'est l'unité de la forme. En saisissant la forme, je saisis l'unité. Oui. Donc, et bien la saisie métaphysique de l'un, ce que nous faisons ici, c'est par négation. La négation de l'unité. Oui. C'est par négation, mais ce n'est pas une induction. Parce qu'une induction positive, c'est celle-là qui est négative. C'est par la négation. Donc, pour saisir l'un métaphysiquement, il faut saisir l'être, il faut saisir la division. Il faut saisir la négation. Quatrième position. Tout ça, c'est le changement de vitesse. Quatrième position. Là, c'est l'être. L'être globalement, inconnu, ainsi inconnu, un tout confus. Je ne sais pas la différence entre l'être et l'un. Et là, c'est le tout confus. Bon. Vous, c'est ensuite le rendu de la divisibilité et la négation de la divisibilité. Oui. Et puis alors, c'est là ensuite. Mais il n'y a pas d'induction de l'un. Parce que l'un n'est pas principe. Oui. Alors, c'est même un petit problème qui se présente entre Aristote et saint Thomas. C'est que jamais Aristote ne dit que moi, je crois. Si vous trouvez un texte là-dessus, vous me le direz. Parce qu'on peut toujours avoir. Jamais Aristote n'a dit que l'être est divisé en l'un et multiple. Mais saint Thomas dit. Saint Thomas dit en commentant la métaphysique que l'être se divise en l'un et multiple. mais vous divisez. Tandis que j'en ai l'essence. Aristote dit que l'être se divise en substance et catégorie, accidentelle, la qualité, se divise entre l'être en acte et l'être en puissance. Mais il ne dit pas que l'être se divise en un multiple. Donc pour lui, il n'y a pas de division directe de l'être en un multiple. Je crois que philosophiquement, Aristote a raison. Certainement, au point de vue théologique seul, je comprends très bien en tant que théologien peut le dire. Mais en tant que philosophe, il faut être attentif. Est-ce que l'être se divise directement? Parce que si l'être se divise directement en un multiple, il n'y a aucun principe. Alors que je crois qu'il y a un principe uniquement lié à la divisibilité. Mais pas, oui, de l'intelligibilité en tant que divisibilité. Même un principe, mais ce n'est pas un principe fondamental. Donc l'être ne se divise pas en un multiple. Au sens fort. Et ça, c'est, je vous dis, c'est une comparaison qui serait faite entre Saint-Thomas et Aristote, qui serait très intéressante. Parce que c'est quand même intéressant de voir que Aristote dit jamais ça. Alors je crois que ça a des conséquences pour l'analogie. Oui. Ça a des conséquences pour l'analogie de voir que ce point de vue.